Entretien sur la seconde épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1969. Chapitre 2.
Mais j'ai jugé ceci en moi-même, de ne pas retourner auprès de vous avec de la tristesse. Car si moi je vous attriste, qui est-ce donc qui me réjouit, sinon celui qui est attristé par moi? Et j'ai écrit ceci même, afin que, quand j'arriverai, je n'ai pas de tristesse de la part de ceux de qui je devais me réjouir, ayant cette confiance à l'égard de vous tous, que ma joie est celle de vous tous. Car je vous ai écrit dans une grande affliction, et avec serrement de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, mais, en quelque sorte, afin que je ne vous surcharge pas, c'est vous tous. Il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été infligée par le grand nombre, de sorte qu'au contraire, vous devriez plutôt pardonner et consoler, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin que je connaisse, à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toute chose. Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne, car moi aussi ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous, dans la personne de Christ, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Or, étant arrivé dans la Troade pour l'évangile du Christ, et une porte m'y étant ouverte dans le Seigneur, je n'ai point eu de repos dans mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Mais, ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Or, grâces à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort pour la mort, et aux autres une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ.
Il existe une certaine liaison entre la première et la seconde épître aux Corinthiens. Dans la première, les Corinthiens, bénis extérieurement et comblés de tous les dons spirituels, avaient pris confiance en eux-mêmes, s'étaient enorgueillis, et cela n'avait pas eu d'autre résultat que d'amener parmi eux des divisions et toute espèce de désordre. Il y avait chez eux beaucoup de choses à reprendre, mais je n'insiste ici que sur les divisions. Ils étaient désunis pour le bien et unis pour le mal. L'un disait être de Paul, l'autre d'Apollos, et cela les divisait en sectes diverses. Puis, quand un mal scandaleux s'était présenté dans l'assemblée, indifférents à ce qui déshonorait le nom de Christ, ils étaient unis pour le passer sous silence. L'apôtre en avait pris occasion pour montrer qu'il y a un ordre dans la maison de Dieu, ordre qu'il n'est pas permis d'enfreindre. Si tous les enfants de Dieu comprenaient cela en ce qui concerne l'Église ou l'Assemblée, comme le témoignage de cette dernière serait plus puissant devant le monde. Ayant reçu l'exhortation, les Corinthiens perdent la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes. Une tristesse selon Dieu remplit leur cœur et les amène à la repentance. L'apôtre leur montre alors que lui n'avait aucune confiance en lui-même, et se sert de ses propres expériences pour leur édification. Il connaissait la tristesse. Il connaissait la puissance de Satan dans le monde. N'ayant aucune confiance en lui-même, il pouvait apporter aux Corinthiens, qui n'étaient plus exaltés par la valeur de leurs dons, les consolations que lui-même avait éprouvées. Mais n'oublions pas que lorsqu'on a surmonté certains dangers, et c'était le cas pour les Corinthiens, d'autres dangers se présentent. Satan ne se tient jamais pour battu. S'il n'a pas réussi à nous vaincre d'un côté, il nous attaquera de l'autre, et il nous faudra de nouveau lui faire face. Quel était donc le danger que couraient maintenant les Corinthiens? Ils avaient été ramenés à une juste appréciation de la pensée de Dieu quant à la discipline. Ils avaient été, comme on le voit au chapitre 7 de notre épître, remplis de zèle pour juger le mal parmi eux, et avaient suivi les enseignements de l'apôtre à ce sujet. La partie semblait donc gagnée, car maintenant ils étaient unanimes dans le bien, unanimes pour exercer une action judiciaire contre le méchant. Ils l'avaient fait comparaître devant leur tribunal et l'avaient ôté du milieu d'eux. Mais au lieu de les louer de ce qu'ils avaient parfaitement accompli leur devoir, l'apôtre leur dit: « Ce n'est pas tout d'être unis dans le jugement. Il faut que vous soyez unis dans l'exercice de l'amour. » Verset 8. Dieu ne voulait pas les faire demeurer sur une action judiciaire. Avec le retranchement, tout n'est pas fini. Les Corinthiens avaient ôté le méchant du milieu d'eux, mais l'apôtre avait appris que ce dernier était accablé de tristesse. Verset 7. L'assemblée le laissait dans cet état. Où était l'amour? L'apôtre en profite pour montrer ce qu'ils avaient à faire envers un homme humilié et repentant. Avant toute chose, il s'occupe d'eux. Il leur avait écrit sa première lettre. Dans une grande affliction et avec serrement de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin, dit-il, que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. La cause de ces larmes était, sans doute, en partie le péché qui avait été commis dans l'assemblée de Corinthe, si cher à son cœur. L'apôtre prenait leur place, alors qu'eux ne savaient pas encore pleurer avec lui. Il pleurait pour eux, sur celui qui, ayant déshonoré le Seigneur, avait jeté de l'opprobre sur lui et terni sa gloire au milieu de son assemblée. Mais il pleurait aussi sur les Corinthiens, et, remarquez-le, à un moment où il ne pleurait pas du tout. Le souci des assemblées assiégeait continuellement l'apôtre. Il sentait profondément la dureté de cœur qui avait rendu les Corinthiens indifférents au mal et avait déshonoré le nom de Christ au milieu d'eux. Maintenant, il ne lui suffisait pas de les voir unis dans le jugement. Il voulait les voir unis dans l'amour. Il leur dit, « Si moi j'ai pleuré, ce n'était pas pour vous attrister, mais afin que vous connussiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. » Il voulait qu'ils comprissent qu'il avait été affligé de les reprendre, de venir à eux avec l'autorité apostolique, pour leur parler de leurs péchés, dans cette première épître si sévère, et que les Corinthiens avaient pu estimer froide et dure. La pensée que leurs cœurs étaient peut-être froissés ne lui laissait pas un moment de répit. Il désirait savoir quel serait l'effet de sa lettre sur eux. Se révolteraient-ils ou accepteraient-ils la réprimande? Paul en était presque à regretter d'avoir écrit cette épître inspirée. Chapitre 7, verset 8.
Car si aussi je vous ai attristé par ma lettre, je n'en ai pas de regret, si même j'en ai eu du regret. Car je vois que cette lettre vous a attristé, lors même que ce n'a été que pour un temps.
Tableau touchant de l'amour qui remplissait son cœur. Trop angoissés pour attendre leur propre réponse à sa lettre, il leur envoie Tite pour qu'ils lui rendent compte de leur état. En attendant, il est lui-même dans la Troade, où la porte est largement ouverte à l'Évangile. Mais une chose est plus importante pour son cœur que même cette œuvre que Dieu lui confie. Il l'abandonne, va au devant de Tite en Macédoine, et n'a pas de repos qu'il ne l'ait rencontré. Cela parle à nos propres cœurs. Il n'y a rien de plus béni, de plus heureux pour nous que l'Évangile. Quelle joie quand on le voit pénétrer dans les consciences et amener des âmes au Seigneur par la conversion. C'est une œuvre merveilleuse à laquelle il nous est donné de prendre part. Cependant, dans ce moment-là, une chose avait plus d'importance pour Paul que même la porte ouverte pour l'Évangile. Il désirait voir une vraie restauration chez ses bien-aimés enfants dans la foi, une assemblée reprenant par une repentance complète, par le jugement d'elle-même, un chemin où le Seigneur pouvait être glorifié. Voilà ce qui remplissait son cœur. Sa joie était que les frères de l'assemblée de Corinthe marchassent ensemble fidèlement, humblement, dépouillés de toute confiance en eux-mêmes, prompts à juger le mal, prompts à pardonner aux méchants repentis. Il dit:
« Si quelqu'un a causé de la tristesse,
verset 5, cet homme n'étant pas encore restauré, l'apôtre ne l'appelle pas un frère et ne le nomme même pas. Il est quelqu'un. Nous pouvons en tirer une utile instruction pour la conduite de l'assemblée envers ceux qui sont retranchés.
Si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, mais en quelque sorte, c'est vous tous. »
Il avait été obligé de les charger dans sa première épître. Maintenant qu'il les voit attristés, il renonce à leur écrire sévèrement. Il avait encore, comme nous le verrons plus tard, beaucoup de choses à reprendre qu'il aurait pu placer devant eux dès le début de son épître, mais il ne voulait pas les accabler. Nous apprenons ici de quelle manière nous avons à nous comporter envers nos frères quand nous avons été obligés de les reprendre. Il nous arrive parfois de les charger plus lourdement encore quand nous voyons que la réprimande n'a pas produit tout l'effet désiré, et nous aggravons ainsi le fardeau dont ils sont déjà accablés. L'apôtre n'agissait pas de cette manière. Voyant les Corinthiens restaurés dans une mesure, il ne cherchait pas à ajouter à leur accablement. Il dit: « Ce que je désire, c'est la joie, c'est l'amour. » Et il les engage à pardonner, à consoler un tel homme, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. « Après vous être repentis, leur dit-il, vous pouvez être maintenant réjouis, consolés, fortifié par mon ministère, et vous laissez cet homme, chez qui la repentance s'est produite, en proie à l'accablement. » Versets 8 et 9. Ils avaient été obéissants pour exercer le jugement. Il s'agissait maintenant qu'ils fussent obéissants pour pardonner. Paul désirait savoir s'ils étaient obéissants en toutes choses. Verset 10. La différence entre cette seconde épître et la première est très frappante. S'agissait-il de juger le mal? L'apôtre avait décidé de livrer cet homme à Satan, mais il avait suspendu son verdict. Dans la seconde épître, il se hâte de pardonner dans la personne de Christ. Au lieu de prononcer le jugement qu'il avait retardé, il accorde le pardon afin qu'il fût donné, par la puissance et avec l'autorité de Christ, à l'homme qui avait péché. Cela ayant lieu, l'ennemi ne pouvait réussir dans ses desseins. Verset 11. Satan aurait voulu répandre de nouveau la désunion, séparer l'assemblée de l'apôtre, car ainsi elle aurait été unanime à juger, et l'apôtre tout seul à pardonner. Lorsque l'ennemi de nos âmes peut nous empêcher de marcher dans une même pensée, dans un même sentiment, soyons bien certains qu'il n'y manque pas. Au verset 14, l'apôtre conclut en disant « Il m'est donc arrivé d'abandonner l'œuvre par amour pour vous, mais je puis m'en remettre à la grâce de Dieu. » Une note en bas de page. Cette œuvre en Troade, il l'a repris après sa seconde visite à Corinthe. Acte 20, versets 2 à 6.
Et ayant traversé ces quartiers-là et ayant beaucoup exhorté les disciples, il vint en Grèce. Et après qu'il y eut séjourné 3 mois, les Juifs, lui ayant dressé des embûches, comme il allait s'embarquer pour la Syrie, on fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens, Aristarque et Segon, et Gaius, et Timothée de Derbe, et Tychique et Trophime d'Asie. Ceux-ci, ayant pris les devants, nous attendirent en Troade. Et pour nous, nous partîmes à force de voile de Philippe, après les jours des pains sans levain, et nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux dans la Troade, et nous y séjournâmes 7 jours.
Fin de la note.
Il me conduit toujours en triomphe dans le Christ.
Un empereur ou un général qui avait remporté des victoires et soumis des peuples célébrait un triomphe. Son char était accompagné d'un cortège portant des encensoirs. La fumée de l'encens montait autour du triomphateur. Parmi les captifs qu'il menait à sa suite, les uns étaient destinés à la mort, les autres à être graciés. Christ, ayant remporté la victoire à la croix, l'apôtre accompagnait son triomphe comme turiféraire. Verset 14. Le parfum, l'odeur de la connaissance de Christ par l'Évangile montait autour de lui pour proclamer la valeur de son œuvre. Paul ajoute
« Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. »
Il se présente ici, en second lieu, lui-même, comme un parfum de Christ qui monte devant Dieu. Persécuté, voué à la mort, humilié, sans aucune confiance en lui-même, ayant besoin d'être continuellement consolé, il était la bonne odeur de Christ. On pouvait voir, dans la personne de celui qui accompagnait son maître, ce que ce maître, maintenant vainqueur et triomphateur, avait été ici-bas. Chers amis, sommes-nous, aux yeux de Dieu, le parfum de Christ, ou faisons-nous monter devant lui la mauvaise odeur du monde et de ses convoitises? Cela parle, me semble-t-il, à nos consciences. Paul pouvait dire
« Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. »
Dieu estimait précieux ce parfum et voulait le répandre pour glorifier son Fils. C'était une odeur de vie pour ceux qui croient, car la victoire de Christ leur annonce la délivrance, mais une odeur de mort pour ceux qui refusent le salut, car c'est leur condamnation. Les hommes suivent aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas, le triomphe de Christ, mais leur attitude vis-à-vis de l'Évangile décide de leur sort, la vie s'ils reçoivent la bonne nouvelle, la mort s'ils la repoussent. Dans ce pays-ci, où l'Évangile est connu de tous, quelle est la condition de ceux qui suivent le triomphe de Christ? Question sérieuse pour ceux qui n'ont pas reçu le Sauveur pour la vie. Quel beau tableau de toute l'activité de l'apôtre au verset 17. Elle était de la part de Dieu dans ce monde. Elle était devant Dieu avec sincérité, sans fraude, et il parlait en Christ. Toutes les ambitions de Paul se concentraient sur ce point, agir pour Dieu avec un cœur sincère, agir devant Dieu avec un cœur droit, agir en Christ de manière à n'être pas plus séparé de lui, en pensée qu'en réalité. Que Dieu nous donne d'apprécier la victoire de Christ, la valeur de son œuvre et de sa personne, et de pouvoir dire, comme Paul,
« C'est de la part de Dieu, devant Dieu, que nous parlons en Christ. »